Bonjour, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Star Wars.
Bonjour.
Monsieur Star Wars qui va nous raconter le...
Robert Star Wars.
Qui va nous raconter les rencontres extraordinaires qu'il a faites. La manière dont est né un projet, au départ un projet de collection, puis d'exposition, et qui finalement a abouti à la naissance d'un ouvrage extraordinaire que, dont vous ne pouvez voir que la couverture et que de loin, mais que vous irez sûrement feuilleter sous les rayons, sur les étagères de la bulle. Et donc, je crois que voilà, il est temps de commencer à nous raconter cette aventure personnelle.
Oui, donc je suis ici parce que je suis donc co-auteur de ce livre. Alors, on est un peu, je dirais, des aliens aux imaginaires, parce que nous, on a fait un livre d'art. Donc, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une nouvelle. Et ici, on partage notre passion pour la science-fiction. Et en fait, c'est tout notre parcours dans ce genre qui nous berce, nous, depuis plus de 40 ans. J'ai rencontré donc mon co-auteur il y a pratiquement plus de 30 ans et nous avions déjà cette passion et notamment la passion pour Star Wars puisque nous avions 10 ans quand nous avons vu le film. Et moi, Star Wars a littéralement changé ma vie puisque j'ai eu l'idée saugrenue d'écrire à George Lucas en 89 pour lui demander s'il accepterait que je fasse le magazine Star Wars en France. Alors, ça a pris un peu de temps, mais je l'ai lancé en 95. J'ai été le premier magazine à l'international et j'ai opéré le magazine, donc le Lucasfilm Magazine, pendant plus de 15 ans. Voilà, ce qui m'a permis de travailler avec eux au quotidien, d'aller sur les tournages de films et de vivre une expérience vraiment exceptionnelle. Voilà.
Alors, ces rencontres avec George Lucas, on aimerait quand même en savoir un peu plus. Comment ça se passe et comment il est ?
Ben, il y a beaucoup de mythologie autour de George Lucas. C'est vrai que c'est quelqu'un d'atypique dans le sens où moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de me mettre derrière lui pendant une semaine à chaque fois sur les tournages. Et c'est vrai qu'il a une manière de réaliser un film qui n'est pas la manière d'un autre réalisateur. C'est vrai qu'il ne parle pas énormément avec ses comédiens. C'est quelqu'un qui, sur un tournage, récupère plutôt une information dans sa caméra. Et de toute façon, le film, il le fera après au montage. Voilà, c'est un monteur avant tout. Ça lui a été beaucoup reproché sur les nouveaux films, puisque la réalisation elle-même, c'est très modernisé. Donc, ces films n'étaient peut-être plus en symbiose avec le cinéma hollywoodien, tout au moins dans la nouvelle manière de faire. Mais moi, ce que j'apprécie chez George Lucas, c'est qu'on a affaire à un auteur qui était aussi son producteur. Et à chaque fois que je l'ai rencontré sur les tournages de films, il a toujours été adorable, toujours gentil. Il a pris le temps de déjeuner avec moi et les autres responsables de magazine, de répondre à nos questions. Et ça m'a toujours étonné parce que sur un tournage, même au moment du déjeuner, il y a toujours une cohorte d'assistants ou d'attachés de presse qui viennent le voir pour lui poser des tas de questions, lui faire approuver des designs. Qu'est-ce qu'on fera demain? Qu'est-ce qu'on fera après-demain? Est-ce que tel acteur pourra revenir? Bon. Et pourtant, à chaque fois, il a pris le temps de passer 2 heures avec nous, de nous expliquer sa vision, parce que pour lui, quelque part, les fans et donc son auditoire, il savait que c'était eux qui avaient fait sa richesse et son pouvoir, et qu'il était normal de pouvoir consacrer 2 heures de sa vie au moment des tournages à ces gens-là. Et je trouve ça honorable, parce que je ne suis pas sûr que des réalisateurs français auraient fait ça. Ils auraient pu dire, voyez ça avec mes deux producteurs, ou voyez ça avec mes 3 attachés de presse, mais non, à chaque fois... Il nous a reçus et j'ai toujours rencontré quelqu'un de passionné. Et quelque part, j'ai toujours vu un enfant, même avec sa barbe et ses grands cheveux. J'ai toujours remarqué qu'il avait cette passion au fond de lui. Et c'est ce qui a toujours fait, je trouve, la magie de Star Wars. C'est que c'est un conteur et il fait des films pour les enfants. C'est toujours dit que le premier Star Wars, c'était un peu le magicien d'Oz de la science-fiction. Un film très ludique, très sympathique. Avec des thèmes forts de la mythologie qu'il a remis à sa sauce, voilà.
Il me semble avoir vu que vous avez fait de la figuration.
Oui, alors chez Lucasfilm, je vous parle, le tournage était en 97 à Leavesden à Londres. Moi, à l'époque, je faisais le magazine depuis 2 ans. J'étais déjà allé au Orange plusieurs fois, mais bon, j'étais un licencié parmi tant d'autres dans le monde, comme les fabricants de t-shirts ou les fabricants de mugs Star Wars. Et un jour, mon contact chez Lucasfilm me dit « Patrick, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Je lui dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» commence par la mauvaise nouvelle. Fait, la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas sur le tournage de Star Wars. Je fais, waouh, je fais, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il faut faxer tout de suite tes dimensions, on va te faire un costume, tu vas jouer dans le film. Voilà. Et donc, on est parti à Londres et je m'en souviens parce que c'était juste au moment où Lady Di a eu son accident, donc on était bloqué sur l'Angleterre. Et le comble, hein, c'est qu'on s'est pris des coups de soleil. Hein, parce qu'on tournait en extérieur, ils avaient reconstitué donc, au studio de Leavesden en extérieur le palais de la ville de Sid, de la planète Naboo. Et c'est la séquence finale du film où vous voyez la ville en liesse. Et en fait, on était 200 figurants et on nous a déplacés pendant 5 jours, de mètre carré en mètre carré, avec 3 axes de caméra. À la fin, ils ont tout reconstitué en numérique. Mais alors, pour la petite histoire, ce qui était marrant, c'est que pour avoir 200 figurants pas cher, qu'est-ce qu'a fait George Lucas? Il a appelé Coppola, Spielberg, tous ses copains. « Dis donc, tes enfants, ils veulent être dans Star Wars. Allez, tu me les envoies. » Et donc, on était avec les enfants de toutes les sacs qui étaient là. On avait tous nos noms. Enfin, c'était sympa. Voilà. C'est un bon souvenir.
Et donc, vous avez rencontré assez vite Arno Grunberg. Et c'était lui le collectionneur de vous deux.
Oui, alors, on s'est retrouvé au rayon musique de films de la FNAC à l'époque. Et il y a des choses qui marquent. Et en fait, on était vraiment des grands fêlés déjà à l'époque. Et on est parti à Londres en 89 pour assister à l'avant-première d'Indiana Jones et la dernière croisade. Alors on n'a pas eu les tickets pour la vraie première, mais on avait la première projection après. Donc on voyait tout le monde sortir, le prince Charles, George Lucas, Robert Watts, Harrison Ford. Et le lendemain, on va dans un comic shop près de Leicester Square, au sous-sol. Et Arnaud, lui, déjà... collectionnait les jouets depuis son âge de 10 ans, puisque son papa a créé le magasin La Récré, qui est devenu maintenant La Grande Récré. Et donc, dès son enfance, lui, il mettait en rayonnage les jouets Star Wars. Donc, il a eu ce truc qu'ont les collectionneurs. Donc, il avait, lui, tous les jours, il voyait les nouveaux jouets arriver. Donc, il les a amassés. Et donc, on était à Londres, dans cette boutique de comic shop en bas. Et là, qu'est-ce que je vois en plein milieu? Un œuf du film Aliens de James Cameron. Alors, c'était une boutique, il y avait des BD, il y avait des romans. Et il me dit, mais tu crois que c'est à vendre, ça? Je fais, bah écoute, je sais pas. Et puis, on demande au gars du magasin. Le gars, il dit, oui, c'est à vendre. Et moi, je dis, tu vas pas acheter ça, c'est horrible, c'est gros. Et en plus, c'était tourné à Elstree, qui était à quelques kilomètres. Donc il y avait des choses qui sortaient des studios. Et là, l'œuf, en plus, avait servi dans la séquence où Ripley, pour ceux qui connaissent le film Aliens de Cameron, où Ripley tire au lance-flammes. Donc en plus, il puait le cramé, c'était une horreur. Et donc, il l'a acheté. Il a dit, mais c'est génial, on peut collectionner les objets de cinéma. Donc on est revenu en France et il y avait la douane. Et je peux vous dire qu'on s'est bien marré à l'époque pour expliquer le truc. et à partir de ce moment-là, il s'est dit, mais... Toutes les sociétés qui ont travaillé sur les films pendant ces 10 dernières années, ils ont été prestataires de services. Donc, 15 jours plus tard, il est reparti en Angleterre, il est allé chez Elstree, et là, il est tombé sur ce qu'on appelle les call sheets, c'est-à-dire les papiers qu'on fait sur les films, sur les productions, où on met les noms de tous les techniciens avec leur numéro de téléphone. Donc, il a récupéré celle de Star Wars, de Aliens, et là, il a commencé à appeler... les techniciens en disant est-ce que vous avez des trucs de Star Wars, de Aliens, de Flash Gordon, et il y a certains qui ont dit oui, et par exemple il a allé chez Stewart Freeborn, le maquilleur de la guerre des étoiles, et il a vu pratiquement tous les masques de la cantina, et Stewart Freeborn il a dit ça t'intéresse, tu les veux, moi j'en veux plus dans mon... Voilà, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a la plus grosse collection d'objets de cantina au monde. Voilà, et donc Ça nous a posé quelques problèmes ces dernières années, mais Arnaud a toujours fait ça d'une manière secrète.
Et c'est difficile de garder le secret quand on arrive à 10 000 pièces, quand même.
Mais oui, mais lui, son truc, c'était vraiment, c'est un collectionneur, donc son plaisir, c'est de chercher et de trouver, voilà. Et de sauvegarder souvent des choses qui peuvent partir à la poubelle. Et en fait, fin 2008, moi, j'étais encore dans le magazine Star Wars et il me dit, Patrice, j'ai une collection d'objets Star Wars, là, tu vois, et de science-fiction. Ça commence à devenir compliqué. J'ai 2 hangars complets d'objets. Ah bon? Puis là, il m'ouvre son ordinateur et il me commence à me montrer. Et moi, j'avais déjà travaillé pour Lucasfilm sur l'expo Star Wars à la Cité des Sciences en 2005, qui avait fait 750 000 visiteurs. Et je lui dis, mais dis donc, c'est génial. T'as le Viper de Galactica, t'as le taxi du cinquième élément, t'as 400 costumes. Mais je lui ai dit, il faut faire comme George Lucas. On va faire des archives privées, puis on va monter des expos dans le monde entier. Puis si les musées ont besoin d'objets, ils nous appelleront, on louera, puis ça te permettra de payer les assurances et puis le stockage. Et c'est comme ça qu'on a créé donc sciencefictionarchive.com et qu'on a monté une première expo à la Cité des Sciences en 2009 qui s'appelait Science et Fiction Aventure Croisée. Puis on a monté avec Lucasfilm l'expo les jouets Star Wars aux Arts Déco. Et puis on travaille régulièrement sur les expos à l'international. Et là, on travaille, on espère, on croise les doigts pour monter un musée de la science-fiction en France. C'est un combat qu'on mène depuis quelques années. Mais quelque part, à chaque fois qu'on a fait les expos, on n'a jamais eu le temps de faire un catalogue. Parce qu'un catalogue, il faut prendre des objets, il faut les shooter et le faire bien. C'est beaucoup de temps, c'est du travail, c'est une équipe. Et donc, l'année dernière, on a vraiment entrepris de se dire, il nous faut un livre qui servira de catalogue. Et il s'avère que David Ogia, qui était mon associé quand j'ai créé le magazine Star Wars, et on était tous les trois à l'époque au lycée à Vincennes dans les années 80, est un des créateurs de Brass Jeune. Donc je l'appelle et je dis, David, on voudrait un bouquin pour la fin d'année sur nos collections. Est-ce que c'est possible? Et il m'a dit, oui, on peut le faire. Et donc, on a fait ça en temps record parce qu'on a commencé le travail le 12 août et le 12 décembre, le livre était en boutique. Ce qui est incroyable pour un livre d'art. Donc, on a mis toute une équipe, on a travaillé jour et nuit et on l'a fait. Voilà. Et on est très content parce que ça nous apporte plein de contacts. Et si le musée de la science-fiction se fait dans les prochaines années, ça sera grâce à ce livre-là. Et on a voulu ce livre, on aurait pu le faire de 10 manières différentes. La science-fiction, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut l'aborder de plein de manières. Mais nous, on a trouvé intéressant de pouvoir raconter notre parcours de la manière dont on a perçu la science-fiction. Et quelque part, on a mis 2001 après Star Wars, parce que c'est parce qu'on a vu Star Wars qu'on a pu redécouvrir 2001. Voilà. Et que 2001 est un film majeur de la science-fiction. Et voilà. Donc c'est notre parcours qu'on explique là-dedans. Et puis, on y parle de films qui sont complètement oubliés par les nouvelles générations, mais qu'il faut voir absolument. C'est-à-dire qu'il faut absolument voir La planète des singes de Schaffner, il faut absolument voir Outland avec Sean Connery. Et ce n'est pas des films qui passent régulièrement en télé. Mais,
est-ce qu'il y a Zardoz?
Non, nous n'avons pas le slip de Zardoz.
Dommage.
Oui, moi j'ai souvenir d'avoir vu... À l'avenir du futur sur TF1, j'étais jeune, j'avais pas bien compris le concept du film.
Donc c'est un projet millefeuille en fait. Là, la oui. partie émergée, c'est l'ouvrage qui est là.
Voilà.
Mais donc on est en train de parler d'abord d'une collection d'objets qui occupe deux hangars et qui représente 10 000 pièces. Ça, c'est des ouais. objets physiques qui ont été utilisés pendant les tournages. À côté de ça, on a sciencefictionarchive.com qui est. La numérisation des photographies.
Non, c'est un moyen pour nous d'avoir un contact avec le public et les musées. Mais et c'est qu'une petite partie où on a mis en ligne, qui est une vitrine pour que les gens nous contactent. Mais grosso modo, oui, on a des très grandes pièces. On a le Viper de Galactica, le taxi du cinquième élément, la voiture, je ne sais pas si vous vous souvenez de The Last Starfighter. Voilà, on a la voiture du film. Il n'y a qu'une seule pièce au monde puisque c'est un tout petit budget. Et donc, Jane Winfield, qui a fait les voitures de Blade Runner, par exemple, pour ce film-là, a dit, puisqu'on ne fait qu'une seule voiture, si jamais il y arrive quoi que ce soit,
on
va être mal. Donc, ils l'ont construite dans un acier trempé. Et elle est hyper lourde. voilà, après, on a la maquette de... On a le Roger Young de Starship Troopers. La maquette fait 7 mètres de long, mais il faut imaginer qu'à chaque fois, il y a une caisse. Donc... on se retrouve avec des caisses monumentales de 10 mètres de long, de 3 mètres de large. Donc, on ne peut pas mettre ça dans un appartement. Donc, d'où la nécessité d'avoir des hangars pour stocker tout ça. Donc, c'est vraiment, pour la part d'Arnaud, un vrai, comme disent les Américains, labor of love. Hein, vraiment, il a dédié toute sa vie à cette collection. Et j'espère vraiment... parce que là, il voulait... Quand il est venu me présenter tout ça, finalement, moi, je lui ai dit, mais il faut faire un musée. Et il ne voulait pas. Lui, il avait ce côté... Il voulait le faire pour lui. Et je lui ai dit, mais t'en profites même pas. C'est dans des caisses, c'est dans des rayonnages. Tu profites même pas de ta collection. Il faut vraiment la partager. Il faut que tu passes à l'étape supérieure et que tu la partages avec le monde entier. Quoi. Et c'est ce qu'on fait. Et maintenant, il est très content. Et quelque part, Arnaud est vraiment le Henri Langlois d'une nouvelle génération. Quoi. Henri Langlois ayant créé la Cinémathèque il y a quelques années, mais ils ont le même amour d'aller fouiller dans une poubelle pour sauvegarder le moindre petit crobar qu'a servi à faire un film, parce que de toute façon, même dans ce petit crobar, il peut y avoir l'essence même d'un énorme film qui va être derrière, qui va être créé derrière.
Et c'est d'autant plus important qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont ce souci de garder les pièces qui leur ont servi, les objets. Enfin, je pose cette question-là parce que, après, pour avoir discuté avec le responsable du musée de la miniature à Lyon, qui a une exposition actuellement où il y a quelques pièces issues de Star Wars ou d'autres films, et c'est ce qu'il nous racontait. Il nous disait. Quand le film est terminé, en général, les décors, on les envoie à la poubelle sans regret. Et heureusement qu'il y a quelques passionnés qui passent.
Oui, beaucoup de choses. Vous savez, surtout dans le système hollywoodien, hein, c'est de la production, c'est un produit. Ce n'est pas du film d'auteur comme en France. Quelque part, Star Wars est un film d'auteur et George Lucas lui tenait à ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il a créé des archives et que c'était important pour lui de sauvegarder. Mais Paramount a vendu ses archives Star Trek. C'est comme ça que nous avons récupéré... un des Enterprise du film et plein de costumes. Greg Jean, qui est un grand maquettiste que vous le connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui a fait toutes les maquettes de 1941 de Spielberg, qui a travaillé sur Rencontre du Troisième Type, qui a travaillé sur Star Trek. Lui-même m'a expliqué que dans les années 70, il allait faire lui-même, parce que lui-même est passionné, il allait faire les poubelles de la MGM, qui jetait régulièrement dans des bennes les costumes, les dessins, et lui, il a récupéré... les costumes de Planète Interdite, qu'est-ce qu'il m'avait raconté voilà, et c'est à chaque fois, de toute façon, les studios, ils sont embêtés, ils ont des hangars entiers, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas le valoriser, et ils mettent ça à la benne. C'est comme ça, chez ILM, ça a été pareil dans la société de George Lucas, hein. Il y a un gars qui a récupéré pas mal de choses, parce qu'il y avait deux salles remplies de plein de choses, de 10 ans de tournage, et à un moment, il faut faire de la place. Donc, ils ont dit, venez ce week-end, ceux qui veulent récupérer des choses, venez récupérer des maquettes. Et c'est comme ça que les choses sortent aussi. Voilà. Et Arnaud a récupéré aussi comme ça la moitié des archives du fabricant Kenner de Star Wars. Parce qu'un jour, il a fallu faire le vide. Il déménageait le siège social. Donc, grâce à un ami américain, il a récupéré la moitié des archives. Pour nous, c'est important parce que c'est les packaging. Ça montre aussi aux jeunes d'aujourd'hui comment était fait tout ça à l'époque, parce que c'était du lettre à 7, c'était fait à la main, les maquettes étaient faites en balsa, il fallait faire les prototypes. Tout ça, ça n'existe plus avec le numérique, ça a tué tous ces métiers. Et nous, c'est ce qu'on aime faire dans nos expos, c'est d'expliquer comment il fallait faire vivre cette industrie, mais avec d'autres moyens. Et notamment, nous avons ce qu'on appelle effectivement des photo art. Donc, par exemple, pour faire des figurines Star Wars à l'époque, Kenner recevait de Lucasfilm des photos pour faire les boîtes. Le problème, c'est que quand on voulait faire un personnage un peu secondaire, ou même des fois même de Dark Vador, vous n'avez pas Dark Vador tout seul pour faire la boîte. Donc, à l'époque, il fallait prendre un artiste qui faisait de l'aéro et qui cachait les autres personnages pour recréer un faux décor qui permettait de faire... faire la boîte, voilà. Et ça s'appelle le photo art, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art, comme toute œuvre d'art. Et c'est ce genre de choses qu'on présente, nous, dans nos expositions, ou dans le livre, d'ailleurs.
Donc, on a évoqué des expositions, mais on a bien compris que toutes les pièces ne pouvaient pas voyager. Il y en a qui sont un peu lourdes et un peu encombrantes.
Les choses lourdes, on peut toujours les choses fragiles.
Mais enfin, il faut des lieux adaptés. Et oui. Il est clair que l'idéal... ce dont on rêverait tous, c'est d'un musée, un grand musée.
Un grand musée, oui.
Est-ce que c'est un projet envisageable un jour ?
Oui, oui, on y travaille. Il y a plusieurs propositions là, qui sont sur mon bureau. Mais vous savez, un musée coûte très cher. Donc, il faut le financer, il faut voir la rentabilité. Il y a un musée de la science-fiction à Seattle, aux États-Unis, mais qui a été créé par Paul Allen, donc avec sa propre collection. Mais Paul Allen, c'est le numéro 2 de Microsoft. Donc, c'est l'homme qui a le plus grand yacht au monde privé. Donc, voilà, il a des ressources sans limite. Nous sommes sur des projets. J'espère pouvoir annoncer dans les futurs mois une bonne nouvelle à tous les gens qui nous suivent ou qui aiment la science-fiction, puisque ça sera un moyen d'avoir un lieu où on pourra faire partager toutes ces œuvres.
Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que j'imagine la frustration de ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur de feuilleter ce bel objet, de quoi on y parle ? Quel film, quelle série, quel...
Bah, on a pris la crème de la crème, hein. Mais on essaye de mélanger à la fois œuvres d'art, costumes, merchandising, planches de dessin, voilà là pour ceux qui aimaient
les
Strange,
pulp,
hein,
les
voilà,
pulps,
des dessins originaux de Frisano, voilà ça c'est la peinture, la fameuse peinture. Qu'on a réussi à faire exposer au Louvre, et Lucasfilm était très fier, mais des Hildebrandt faits pour Star Wars, peintes en 72 heures, parce qu'ils avaient des deadlines très serrées, et c'était des frères jumeaux, et l'un commençait par la droite et l'autre par la gauche, et voilà, il y a toujours des aventures incroyables. Si je vous présente la peinture... Pour ceux qui aiment la musique de film, il y avait la fameuse peinture de William Stout, pour un des disques de l'Empire contre-attaque, et William Soult m'a raconté qu'il a reçu la commande alors qu'effectivement 24 heures plus tard il prenait l'avion pour venir en Europe parce que c'était le production designer de Conan de John Milius, et il m'a dit j'ai littéralement déposé la peinture, je l'ai faite en 24 heures sans rien voir pratiquement du film, juste en recevant quelques photos, et je l'ai déposé et j'ai filé à l'aéroport et je suis parti sur le tournage de Conan. Voilà. Et Blade Runner, Tron, bien sûr on essaye de parler de tous les films, tous les grands films importants de cette époque-là, on en parle, mais on essaye aussi de parler de films moins connus mais qui nous ont marqués au même titre, hein. Je reparle de Outland, qui est un film un peu oublié, qui est un remake du Train sifflera trois fois, mais où c'est pratiquement toute l'équipe d'Alien qui est dessus, et où c'est un film d'une qualité exceptionnelle.
Avait vu Chris Foss tout à l'heure.
Alors nous avons beaucoup de dessins de Chris Foss, et là on montre les dessins avortés bien sûr du projet de Jodorowsky,
oui,
de Dune. Voilà, donc dessin d'une moto pour le duc Leto Atreide. Voilà là. Plus commun dans la cantina de Star Wars. Voilà. Ce qu'a fait Arnaud est vraiment remarquable, hein, mon associé. Les Américains commencent maintenant à nous contacter, mais il a vraiment, je dirais, dédié sa vie, ses ressources pour ça. Il dit souvent d'ailleurs que ça le ronge de l'intérieur. Hein, c'est toute une vie, tout l'amour du cinéma. Et on a la chance d'avoir notre président d'honneur qui est Robert Watts, qui est donc le
préfacier.
Voilà, qui a préfacé l'ouvrage. Là, on le voit tout jeune avec Kubrick sur Space Station One, hein, de 2001. Il a travaillé un an avec Kubrick. Robert est devenu bien sûr le producteur des Star Wars, des Indiana Jones. Il est devenu le plus grand producteur de tous les temps en 88 avec Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et pour Kubrick, d'ailleurs, il m'a dit que c'était le mec le plus drôle qu'il ait jamais rencontré. Et il m'a dit tout ce qu'on entend sur lui, mais c'est à l'encontre de ce qu'était Stanley Kubrick, quoi. Il sortait d'un tournage d'un James Bond aux Bahamas, je crois que c'était Opération Tonnerre. Et il reçoit un coup de fil, on lui dit avant de revenir à Londres, il faut que tu passes à New York, il y a Kubrick qui veut te voir. Donc il prend l'avion, il va à New York, il arrive chez Kubrick, et là il m'a dit je suis resté un an. Mais il m'a dit Kubrick était super drôle. Mais il m'a dit c'est sûr, le 31 décembre à minuit, on était avec lui en train de travailler. Mais voilà, l'ambiance était super bonne, et il a dit c'était un mec ultra brillant. Voilà, et donc on a la chance, il nous a signé une magnifique préface. Parce que c'est quelqu'un de très généreux et qui a fabriqué beaucoup des films qui nous ont marqués.
Alors apparemment, il y a un état d'esprit particulier dans ce milieu, parce que Patrice Giraud, pour le peu que je connais de lui, il travaille aussi nuit et jour, à plein temps. Et à côté de ses activités dont il vous parle aussi, ici, il y a aussi une société de production, Starfix
Productions, oui. Alors... Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai fait une école de commerce, une école de cinéma. Et puis bon, j'ai écrit à Georges Lucas, il m'a répondu. Donc, je suis devenu éditeur. Et j'ai un peu changé de voie, mais je suis revenu à mes premiers amours. Et avec Arnaud, on a créé Starfix Production, puisque j'ai réédité le magazine Starfix dans les années 90. D'ailleurs, je prévois pour la fin d'année, il y aura un ouvrage qui sortira en librairie sur la grande époque de Starfix avec Christophe Gans. Et nous avons produit un premier long métrage qui s'appelle Orsed, qui est un petit film d'horreur, mais qui, hélas, en France, on n'arrive pas à le distribuer ou à le vendre, mais qui a fait le tour du monde et qui a reçu beaucoup de prix en Amérique du Sud et aux États-Unis. Voilà, donc on essaye de produire des expos, produire le cinéma, de façon c'est assez proche, et on fait les deux, voilà.
Alors, vous voyez à quel genre de personnes vous avez affaire. Je suis sûre que vous avez tous plein de questions à poser. Donc, on a décidé de vous laisser l'occasion de le faire. Profitez de cette chance. Moi, je vais me promener avec le micro dans la salle. J'arrive.
Oui. Dans un premier temps, c'est un remerciement.
Merci.
Pour avoir autorisé François Torel à faire un épisode du Fossoyeur.
Ah oui.
Un excellent, excellent.
C'est
épisode.
Une idée du directeur marketing de chez Bragelonne qu'il connaissait. Et il a été. Moi, je ne le connaissais pas. Hein, parce que, vous savez, je suis devant mon ordinateur, mais pas sur YouTube.
Donc, et tous ceux qui veulent le découvrir peuvent effectivement regarder cet épisode.
Il a été charmant. Ouais. Effectivement. Très souvent, on me croise dans les salons en me disant « Oh, mais je vous ai vu dans le Fossoyeur. »
Voilà.
Voilà.
Et ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de Star Wars 7?
Alors, j'aime les Star Wars dans l'ordre de fabrication. Moi, mon préféré, c'est l'épisode 4 et après, je descends en catégorie. Voilà. Je suis pas... quelque part, je pense que ce Star Wars-là, Disney ne l'a pas conçu pour plaire à ma génération. C'est une société hyper marketing. Leur cible, c'est les jeunes. Voilà. Moi, ce que j'aime dans Star Wars, c'est la nouveauté, les nouvelles planètes, les nouvelles créatures. Là, Disney a fait un film où il y a une nouvelle planète, mais la planète, c'est Tatooine. Donc, elle a beau avoir un autre nom, pour moi, ce n'est pas une nouvelle planète. Donc, voilà, c'est pas un film ambitieux à mes yeux. C'est un film marketing qui a marché, hein, 2 milliards de dollars. Mais c'est pour moi pas un film de George Lucas, puisque je pense que George Lucas n'aurait jamais fait ça. C'est un film, comme je dis, purement marketing. George Lucas avait écrit des scénarios qui paraît en plus étaient très bien, mais il avait fait de nouveau des ados, des nouvelles planètes, et le responsable du CEO, j'imagine, de Disney a reçu l'étude marketing. Et quand il a mis les deux l'un en face de l'autre, il a dit « qu'est-ce que je fais ?» Les gens, ils veulent voir le Faucon Millennium, ils veulent voir le X-Wing. C'est sûr, vous allez dans la rue, vous voulez voir quoi? Vous faites une étude massive à des gens qui ne sont pas des spécialistes. Qu'est-ce que vous voulez voir? Dark Vador. Gens qui ne connaissent pas très bien Star Wars. Donc, on a ce que veut beaucoup de gens. Voilà, donc, ils veulent l'étude marketing. Il a dit « Faucon Millennium, X-Wing ». Donc, ils ont navigué là-dedans. Voilà, c'est pas. En plus, pour moi, le problème, c'est que mon héros, c'est Luke Skywalker et on le voit pas dans le film. Donc, j'ai même eu peur qu'à la fin, il se retourne même pas. Donc, donc maintenant, j'ai hâte de voir le prochain film. Mais voilà. Maintenant, c'est mieux que Fast and Furious, qu'on se mette d'accord, et que Transformers. Voilà. Après, tout est relatif, mais tout comme les épisodes 1, 2, 3. Ont eu un effet déceptif par rapport à la trilogie d'époque. Mais tout comme déjà le retour des Jedi avait eu un effet déceptif par rapport à l'Empire contre-attaque. George nous a habitués au top du top dans les années 80 avec Star Wars, l'Empire contre-attaque et quelque part les aventuriers de l'Arche perdue. Il était au sommet de sa gloire, de sa carrière. Bon, après, on est forcément en pente descendante. Voilà. Mais aujourd'hui, il a des producteurs à son ranch et ça se trouve, même il a tourné. J'ai pas eu les dernières infos, mais il préparait de faire des films pour lui, mais qu'il ne veut absolument pas montrer. Il a été très blessé par toutes les attaques qu'il a eues dans la presse avec les prequels. C'est lié aussi au fait que chez Lucasfilm, tout est mis en place pour le protéger. Hein, c'est une structure à la Tour d'Ivoire. Donc, il y a un moment, il y a un vrai déphasage avec le public. Et donc, quand il voit les critiques dans la presse, il ne comprend pas. Quand tous les gens autour de vous dans la société vous disent depuis 3 ans, ce que vous faites, c'est génial. Et puis, vous sortez le film et vous vous faites allumer. Vous ne comprenez pas. Donc, il est richissime. Il a 4 milliards. Mais ce qui est bien, c'est qu'il peut se produire des Star Wars pour lui tout seul. Donc, je pense qu'on les verra. S'il fait ses films, je pense qu'on les verra un jour. Mais là, pour l'instant, il ne les montrera pas. Mais c'est dommage parce que quelque part, comme dit Coppola, Star Wars a tué l'homme qu'il était créateur à l'époque, qui a fait American Graffiti, THX, Star Wars. Et après, il est pris au jeu de sa machine. Quoi. Et c'est un personnage très étonnant, George Lucas.
Bon, je repasse le micro. On est obligé de s'en servir parce que sinon on n'est pas sur les enregistrements sonores et c'est dommage de ne pas garder ce patrimoine aussi.
Bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure, vous aviez évoqué donc votre chasse au trésor concernant tous les produits qui servaient donc pour les tournages et tout. Vous avez été donc parmi les premiers à voir la valeur que ça pouvait représenter. Actuellement,
à l'époque, c'était pas une question de valeur, c'était une question de passion.
Oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Mais depuis tout l'emballement qu'il y a eu au niveau des produits dérivés, surtout produits originaux de films et tout, actuellement comment ça se passe? Est-ce que les producteurs eux-mêmes assurent la valorisation de ces produits qui deviennent des produits cultes et tout, ou est-ce que ils sont toujours, est-ce qu'ils ne savent toujours pas quoi en faire? Est-ce que là en 2016 ils sont encore obligés de faire appel à vous pour justement se débarrasser?
Il faut pas appel à nous du tout. Non, ce qui se passe, c'est, par exemple, sur les nouveaux Star Wars, je me rappelle sur l'épisode 2, il y avait un turnover très rapide parce qu'il n'y avait que 3 plateaux en Australie. Mm-hmm. Donc, ils construisaient très vite, ils tournaient, et le lendemain, c'était détruit, ça passait à la benne, mais c'était entièrement broyé. Parce qu'ils ne voulaient pas d'un second marché, que la moindre chaise soit revendue sur eBay une fortune. Donc, ils essayaient de détruire pas mal de choses, et ils gardaient ce qu'ils considéraient qu'il fallait garder. Maintenant, il y a pas mal de séries télé. Maintenant, ils font des ventes aux enchères sur eBay ou je ne sais plus quels sont les noms des sites où il y a des ventes organisées par des Christie's pour vendre officiellement les objets. Nous, par exemple, que ce soit Galactica 2003, oui, c'est vrai, déjà, ou Star Trek, on les a achetés d'une manière officielle durant les ventes aux enchères américaines. Hein, voilà. Mais Paramount a vendu tout son patrimoine sur Star Trek. Pour moi, c'est une aberration. Ils ont vendu toutes les maquettes.
Et comment dire, vous êtes du coup les Frenchies de ce marché, en tout cas de cette course au trésor. Comment ça se passe justement avec, j'imagine, d'autres passionnés, d'autres horizons, on va dire, d'autres pays?
Parce qu'on est Frenchy, je crois qu'ils ne nous voient pas vraiment les Américains sur l'échiquier mondial. Arnaud est connu des gens importants dans ce milieu-là, donc quand ils ont quelque chose d'important à vendre, ils le contactent, mais voilà. D'accord. Après, il y a toujours des questions d'ego chez les collectionneurs.
J'imagine, oui. Voilà. Merci à vous en tout cas.
Je vous en prie.
Alors, il y avait Gilles Francescano qui avait demandé la... Voilà. Gilles Francescano, que l'on salue.
Merci Gilles d'être là.
Bonjour Patrice. Je voudrais
bonjour Gilles.
Déjà te dire que moi, je suis très heureux de te voir ici pour parler
moi aussi, je savais pas que t'étais là,
de ton travail avec Arnaud. Je voudrais te dire officiellement que je regrette sincèrement qu'on n'ait pas pu travailler ensemble pour les Utopiales l'année passée, et j'espère que ça se renouvellera.
Ben, j'espère aussi.
Ensuite, effectivement, je suis arrivé en petit cours de route, alors je pense que tu as exposé le travail que tu fais avec Arnaud, et moi je trouve ça énorme, effectivement, parce que c'est, entre guillemets, un fan complètement geek qui a réussi à faire en sorte que sa passion puisse se réaliser. Donc d'une part, je vous souhaite effectivement bonne chance et bonne continuation pour tout le reste. Et puis pour rebondir par rapport à un sujet que tu as abordé, le musée, tu as parlé donc du musée américain. Il y a aussi le musée donc à Yverdon-les-Bains, qui est d'une autre structure, oui. Le musée de la science-fiction et de l'utopie à Yverdon-les-Bains, qui est beaucoup plus petit. Est-ce que tu penses nécessairement qu'un musée français, entre guillemets, hein, par son implantation, enfin en tous les cas je l'espère, devrait être obligatoirement en région parisienne? puisque là, on est en province. Merci.
Mais qui te dit que ça sera en région parisienne ?
Non, mais c'est pour ça.
Non, je pense que Paris est peut-être l'un des moins bons endroits pour faire un musée. Parce qu'à Paris, il y a trop de concurrence. À Paris, c'est, je ne sais pas combien il y a de musées à Paris.
Chouette.
Monter un musée d'Ascension à Paris, moi, personnellement, je ne m'y risquerais pas, parce que c'est un vrai problème. Maintenant, il y a des gens qui ont monté Art Ludique, ça marche très bien, mais le problème d'un musée, c'est la longueur. La première année, on l'ouvre, c'est un carton. Le problème du musée, c'est qu'il faut le maintenir dans le temps. C'est-à-dire qu'après, mais bon, vous avez le même problème avec les manifestations, c'est qu'il faut toujours de la nouveauté pour que le musée continue à avoir des capacités de visiteurs. Donc après, c'est-à-dire qu'au-delà des collections permanentes, il faut faire de l'expo de nouvelles choses. Alors, ça veut dire que dans notre cas, il faudrait qu'on ait une partie permanente plus une partie où on accueillerait une expo Tron quand il y a le film Tron, une expo Avatar. Voilà. Donc c'est là la complexité, c'est comment tenir sur 10 ou 20 ans sans qu'il y ait une érosion et que financièrement, un tel musée soit viable. Voilà. C'est toute la problématique. Et Arnaud et moi, on ne veut pas rentrer dans un truc qui n'est pas viable. Voilà. On ne veut pas que ça soit un four, que dans au bout de 2 ans, ça ferme. Non, non. Il faut qu'on étudie la chose. Mieux vaut attendre 5 ans de plus, mais d'avoir le bon projet. Et une fois de plus, à Seattle, c'est un schéma... Mais il est à Seattle, hein, ça marche pas mal. Il ne l'a pas fait à New York ou à Los Angeles. Là, à Los Angeles, ils ouvrent... L'Académie des Oscars ouvre un musée, enfin, un vrai musée de cinéma qui va être à Los Angeles. C'est quand même aberrant qu'il n'y en ait pas jusqu'à maintenant. Washington voudrait un musée de la science-fiction. Ils y travaillent, mais ils n'ont pas de collection. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'est faisable aux États-Unis parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses. Et dans le système américain, si les collectionneurs prêtent, ils défiscalisent. Voilà, les gens riches peuvent défiscaliser. Donc il y a tout un système qui peut faire qu'ils peuvent y arriver. Et puis, il y a Georges Lucas qui veut monter son musée, mais c'est un vrai casse-tête. Il a été refusé à San Francisco. Il vient d'être refusé à Chicago. Il est en train de réétudier une nouvelle proposition à San Francisco et une nouvelle proposition à Los Angeles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lucas a le même problème que Luc Besson, c'est-à-dire que sa fortune, ce qu'il est lui, est finalement un point faible. C'est-à-dire qu'on lui en veut d'être riche, qu'on lui en veut d'avoir réussi. Donc, il a toujours des gens qui se mettent en face de lui pour pas que son projet aboutisse. Et c'est un drame parce que son projet de musée est fantastique. C'est un musée moderne dans lequel il veut à la fois exposer ses collections de cinéma, mais aussi exposer ses propres collections d'art qu'il a accumulées depuis 40 ans parce que c'est un énorme collectionneur. Donc, ça peut aller de la BD de Picsou à du Frank Lloyd Wright ou à du Norman Rockwell. Et puis, il veut y intégrer aussi, effectivement, comme fait Art Ludique, des choses du monde actuel, des artistes, du genre numérique. C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'un artiste qui peint sur une tablette pour Pixar n'a pas le même statut qu'un artiste d'il y a 200 ans sur peinture. Voilà. Et George Lucas voudrait vraiment casser cette barrière et dire... que le gars qui peint aujourd'hui sur sa tablette a, s'il se trouve, plus de talent que le gars il y a 200 ans. Donc, il n'y a pas de raison de le dénigrer. Et il voudrait démocratiser ça. J'espère qu'il va y arriver. Je pense qu'il va y arriver. Mais bon, Georges Lucas a 73 ans et j'espère qu'il verra son musée. Quoi. Voilà. Mais ce n'est pas simple pour nous, mais ce n'est pas simple, vous voyez, pour Georges Lucas non plus.
Ça ne console pas.
Ça me console.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Même pour les petites questions, il faut le micro.
Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé des costumes de Planète Interdite. Et ouais. Moi, je me demande juste, il est où le robot ?
Ah, Roby. Roby le robot. Alors nous, dans la collection, nous avons un faux Roby le robot, une réplique. Et nous avons le costume, si vous connaissez le film, on a le costume de Cookie, le chef cuistot. Voilà. Et Roby, le vrai est à Los Angeles chez un privé. Il y a peu de chances qu'il sorte. Hein, et voilà. Et si jamais il était amené à aller dans une vente aux enchères, bon, alors là, C'est des millions parce que c'est, par exemple, Planète Interdite, c'est le film qui a marqué George Lucas, c'est le film qui a marqué Spielberg, c'est le film qui a marqué James Cameron. Donc c'est un film qui a été majeur pour toute une génération. Voilà. Donc nous, pour nous, on oublie. Une réplique, ça nous va très bien. Mais c'est un très beau robot en vrai. Hein. Il fait 2m25, c'est massif, c'est très impressionnant. Et puis il est magnifique parce qu'il est. Il n'est pas vraiment art déco, mais il représente tout le côté Cadillac, voilà, c'est le chrome des années 40-50. Oh là, et question qui arrive en.
Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous allez continuer à chercher d'autres pièces sur des films plus récents, ou est-ce que vous allez juste vous concentrer sur les films qui vous ont marqué, vous à votre époque? Est-ce que, par exemple, vous allez chercher sur Le Seigneur des Anneaux ou encore plus récent? Est-ce que c'est en projet de...
Pas Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il est hors notre champ d'action qui est la science-fiction. Mais Arnaud a levé un peu le pied sur la collection, parce que déjà la collection est énorme. Donc aujourd'hui, les ressources, je préfère les mettre sur des projets ou sur de la restauration. Parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais des fois, il faut les réparer. Où il faut les restaurer. On a fait entièrement restaurer le singe qui est dans le livre de 2001, c'est de l'espace. Donc il a fallu l'envoyer aux États-Unis. C'est quelqu'un qui travaille le latex pour pas qu'il s'abîme. Bon, c'est des techniques très compliquées. Bon, ça découle tout ça. Et puis aussi, les prix du marché ont littéralement explosé avec Internet depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on a des réseaux. Donc on peut acquérir certaines choses d'une manière en relationnel, ou j'irais sous les radars, dans les ventes aux enchères de moins en moins. Et par contre, le vrai problème de la collection, effectivement, comme vous disiez, c'est le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup des choses qu'on présente dans le livre ne parlent pas des jeunes générations. Donc on a le besoin d'acquérir des costumes ou des objets qui ont servi à des films récents. Voilà. Maintenant, on ne va pas acheter des choses qui ne nous intéressent pas. Voilà. On va pas acheter juste pour acheter un robot de Transformer. Non, on n'aime pas le film, donc on.
Oui, mais ouais, par exemple, dire, tout ce qui est Avengers ou tout ce qui est.
Alors, c'est un peu en dehors, mais Hunger Games, par exemple, on essaie de trouver des costumes. Voilà. On trouve que le film est, en termes de design, il y a des très belles choses.
Et alors, du coup, je pose une question aussi. Est-ce que la manière dont les effets spéciaux ont changé, est-ce que les nouvelles technologies qui font beaucoup appel au numérique, justement, ça ne provoque pas la disparition d'une partie de ces objets qu'on fabriquait auparavant ?
Pour le cinéma, alors, il y a beaucoup moins de maquettes, beaucoup moins de choses qu'avant. C'est un problème. D'ailleurs, on essaye de mettre la main sur tout ce qui date des années 80, même quand c'est un tout petit film, dès que c'est une maquette, c'est joli. Et on sait que dans un musée ou dans une expo, ça sera beau à présenter. Je crois qu'aujourd'hui, le gros problème du numérique, c'est notamment dans la phase de pré-production. Nous, on a énormément de dessins de pré-production, mais faits au crayon, faits au feutre, et maintenant, tout est fait en numérique. Et ça, c'est un problème, parce que les œuvres sont purement numériques. Alors, le musée Art Ludique fait des expos régulières sur des films récents, mais c'est des tirages numériques, et je trouve que ça n'a pas du tout la même chose, la même sensibilité qu'un tableau ou qu'un crayonné ou... Voilà, c'est le numérique, quelque chose de froid. C'est là-dessus surtout qu'on est un peu embêté. Après, sur le film, il y a toujours des costumes, toujours voilà, des choses qui sont fabriquées. Voilà, des films, nous, qui nous intéressent le plus dans le futur, tout le monde, les deux films, c'est bien sûr la suite d'Avatar, qu'on trouve que le premier a été plutôt remarquable et que Cameron, il met peut-être 10 ans à faire un film, mais généralement, on a bien fait d'attendre 10 ans, quoi. Voilà. Et puis, il y a quand même le Luc Besson avec Valérian, tiré de la BD de Mézières, qui permettra, de toute façon, on aime ou on n'aime pas Besson, mais quoi qu'il arrive, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau à ce genre de science-fiction au cinéma, à ce média de masse. Et quelque part, c'est une vision européenne et non pas ni asiatique ni américaine, et avec le look dessiné par Mézières. Donc voilà, ça sera de toute façon une bouchée d'air pur dans le cinéma de science-fiction.
Bonjour.
Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec moi.
Je voulais juste signaler qu'il y avait de très belles pièces au musée de la miniature et du cinéma à Lyon. Oui. Et ils réparent, et aussi ils ont trouvé des gens sur Lyon qui font du latex.
Oui, j'en disais un mot tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment un endroit à visiter si vous passez par Lyon.
Oui, ils ont des très belles collections. Alors, c'est un peu biscornu parce que
c'est petit comme lieu, mais il y a des trésors.
C'est pas si petit que ça, finalement. C'est assez grand, oui. Mais ils ont énormément d'objets. Ils ont notamment la reine alien.
La reine alien. Qu'ils sont en train de restaurer, voilà. Parce que justement le latex se détériore, ouais. Qu'elle est articulée et que c'est très très compliqué de réparer des pièces pareilles.
Alors le latex est très bizarre parce que suivant la manière dont il est fait, il ne se préserve pas de la même manière. Les latex par exemple sur le singe de 2001 ou les masques de la cantina de Star Wars fait par Stuart Freeborn, nous on les a et ils résistent dans le temps, c'est incroyable. On a des masques de latex de 86 de Star Trek qui sont en déliquescence complète. Et on a les masques en latex, par exemple, faits pour les... Je ne me rappelle plus le nom des méchants dans le cinquième élément. Les Mandochouan. Non, ce n'est pas les Mandochouan, c'est les... Mandaloriens, non ? Mangalore. Alors eux, c'est du latex, les nouveaux latex. Et eux, par exemple... Avec le temps, ils sécrètent. Quand on les touche, ils sont froids, ils suintent, mais ils suintent à vie. Apparemment, c'est un process qui ne va pratiquement jamais s'arrêter. Et c'est assez désagréable, et il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Quoi. Et en fait, c'est le liquide qui est dans le latex qui sort petit à petit. Et c'est gras, en fait.
Mais ça n'est gênant que pour ceux qui ont envie de les tripoter.
Mais c'est très agréable de tripoter un mangalore.
Chacun ses goûts. Hein.
Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de Luc Besson. Est-ce qu'il y a une autre place qui est faite dans la collection au cinéma français de science-fiction ?
Oui, alors on a la chance de bien connaître Monsieur Mézières. Et nous avons, par exemple, et ça on espère pouvoir faire une expo, on a le fond complet des dessins de Mézières pour le cinquième élément. Voilà. Et il a un trait à part. Je ne sais pas s'il travaille sur le Valérian, mais je crois... je ne sais pas s'il va faire des dessins, en tout cas, sur Valérian. Mais bon, le cinéma français de science-fiction, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, il y a eu quelques petits essais. Il y a eu, bien sûr, Luc Besson avec Le Dernier Combat. Mais c'est difficile d'aller retrouver des objets de ce genre de film. Hein. Généralement, ça a disparu.
Oui, bonjour. Alors, c'est une question un peu particulière, mais vu que vous avez dit que vous avez côtoyé un peu George Lucas, savez-vous dans quelle proportion il s'inspirait d'Isaac Asimov et en quoi Coruscant s'inspire de Trantor ? Est-ce que aussi on peut voir, alors, si jamais vous connaissez l'œuvre, imaginez que la seconde fondation, ce ne serait pas aussi l'inspiration pour les Jedi ?
Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question parce que... Là, il faudrait qu'on appelle George Lucas directement sur son portable. Non, le problème, c'est qu'avec Lucas, je pourrais vous citer 20 autres sources où on a l'impression que c'est effectivement une inspiration flagrante. Et je crois qu'en fait, George, il a été... nous, on présente des romans de Raymond Hamilton. Il a été inspiré partout. Il lisait ça quand il était jeune. Il lisait du Flash Gordon. Il regardait les céréales. Il a lu du Asimov. Voilà, il a regardé du Kurosawa. Ouais. Sa force à George Lucas, c'est qu'il, je crois qu'il est comme nous. Finalement, il s'est intéressé à beaucoup de choses. Il s'en est nourri. Sa grande force, c'est qu'il a réussi à le ressortir, tout ça, Dune aussi, hein, il y a du Dune dans Star Wars. Il a réussi à le ressortir dans son œuvre et d'une manière cohérente. C'est ça la force de Star Wars. C'est que tout ça, c'était très cohérent. Ça semblait nouveau à tout le monde, mais finalement, pour les gens qui connaissaient le genre, ils ont retrouvé plein de choses. Mais sa force, c'est qu'il a fait ça d'une manière cohérente. Il a eu cette vision et qu'il a maintenu sur ses 6 films et qu'il a fait le succès Star Wars. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment qu'on a regardé Star Wars, on s'est dit, tiens, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Tout nous semblait réel, au bon endroit, au bon moment, le bon costume qui nous paraissait voilà, dans cet univers d'une manière uniforme qui fonctionnait. Et moi, ça a été la magie en 77. C'est effectivement à l'âge de 10 ans. Et j'ai été Luke Skywalker, j'ai littéralement voyagé dans la galaxie Star Wars pendant 2 heures. Parce que quelque part, on m'aurait dit que George Lucas, il avait filmé là-bas. J'aurais dit, bah oui, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Quoi. Ça me paraissait tellement réel. Plus le côté, l'idée de faire les vaisseaux vieillissants, tout ça qui était une nouveauté pour l'époque. Ça a été la vision de George, qui paraît aujourd'hui naturelle, mais qui à l'époque avait été une première.
Alors, il nous reste 2-3 minutes pour une toute dernière question.
Ah, Une deuxième petite question.
Merci. Oui, vous semblez voir la science-fiction que sur le côté cinéma. C'est peut-être ce qui vous a marqué, mais moi je sais qu'à l'époque j'ai vu à peu près les mêmes films. Mais j'ai aussi lu par exemple La planète des singes, je l'ai lu, etc. Et alors, est-ce que ce serait le projet, par exemple, un musée de la science, du cinéma de science-fiction ou un musée de la science-fiction? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait regrouper des tas de domaines. Moi, je sais que la littérature est riche. Et là, de ce côté-là, il y a beaucoup de Français, d'ailleurs. Et puis la BD, quoi. Justement, vous parliez de... Moi, j'ai des grands souvenirs, étant gamine, de lire... comment Valérian Laureline, deux agents spatio-temporels. Enfin,
bien sûr.
Ça bah, on essaye, faire partie de ces...
Nous, on essaie de montrer des œuvres originales. Donc après, sur la littérature, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on a participé à l'expo Science et Fiction à la Cité des Sciences à Paris, on l'avait fait en partenariat avec la BNF. Et effectivement, on avait présenté des manuscrits originaux. Et notamment, on avait montré le manuscrit de Pierre Boulle sur la planète des singes, avec littéralement l'annotation de Pierre Boulle qui dit « Ah, et si c'était un singe ?» C'est-à-dire qu'on voit le moment où il a pensé qu'il fallait que le personnage devienne un singe. Quoi. Donc c'est en ça que nous, c'est plus facile d'exposer des choses qu'on trouve, donc des costumes. Tout ce qui est littéraire, ça devient tout de suite très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est BD, tout ce qui est graphique, il n'y a pas de problème. Mais dans un musée... Et puis c'est vrai, je trouve que le pouvoir... On peut toujours présenter des livres, mais j'ai bien vu à la Cité des Sciences, le pouvoir des manuscrits sur les jeunes générations, il passe complètement à côté. Quoi. Donc on peut en présenter quelques-uns, mais on ne peut pas en mettre beaucoup non plus. Quoi. Tout comme les documents de production, c'est un peu rébarbatif pour les gens.
Et il existe le musée de la Maison d'ailleurs, justement, ouais. À Yverdon, en Suisse, qui permet de découvrir beaucoup de manuscrits, beaucoup d'ouvrages, des collections magnifiques. Donc, mais, ça existe déjà un petit peu.
Oui, des fois, Fantastic Art, moi, je me souviens, il y a quelques années, ils exposaient, alors là, pas, je ne parle pas de livres, mais enfin, de bandes dessinées. Chaque année, il y avait un auteur qui exposait des planches, et donc, il y a peut-être moyen d'avoir des fois les planches de BD. C'est sûr que c'est plus
bien sûr.
Visuel. Quoi, voilà.
Alors, ce que je voulais, pour finir, je vais quand même vous dire, quand même, ce livre, nous, c'est qu'on rend hommage à tous les artistes qui ont travaillé sur ces films. Parce que Cameron, Lucas, Spielberg... S'il n'y avait pas les armées de designers derrière, que ce soit les ingénieurs du son, les directeurs photos, mais aussi tous les artistes qui ont conçu, les films ne seraient pas les films qu'ils seraient. Et donc, tout ça, c'est un hommage à tous ces artistes. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que les deux plus beaux compliments qu'on ait reçus sur ce livre, c'est Patrice Garcia, qui a travaillé sur Le Cinquième Élément, qui nous a dit « Merci les gars ». De parler de nous comme ça, parce que c'est assez rare les livres où on parle des artistes. Très souvent, dans les livres de cinéma comme ça, il y a leurs œuvres, mais ils ne sont même pas cités. Et William Stout qui m'a envoyé un petit message là, il y a deux jours des États-Unis en me disant le livre est génial, où est-ce qu'on peut l'acheter pour... Il y a plein de copains qui veulent le voir à Los Angeles. Voilà. Donc c'est surtout un hommage aux costumiers, à John Mollo, à des William Stout, à des Ralph McQuarrie, enfin tous ces grands artistes. Qui ont travaillé sur tous ces films et tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Voilà.
Bah vous avez de la chance, vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes à Épinal, l'auteur est là, le livre aussi, il est sous la bulle du livre. Donc je vous encourage à aller continuer la discussion.
Oui, je fais des dédicaces et je ne fais pas de dessin, rassurez-vous.
Un grand merci à Patrice Giraud.
Merci d'être venu.
Présentation.